à tous. Donc on arrive à la fin du chapitre 2 du livre de Tite, et pour cela je vous invite à lire ensemble Tite chapitre 2 versets 11 à 15. Je vais lire au nom de Jésus. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, au désir de ce monde et à vivre dans le siècle présent d'une manière sensée, juste et pieuse, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, le Christ Jésus. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les œuvres bonnes. Ainsi dois-tu parler, exhorter et reprendre avec une pleine autorité. Que personne ne te méprise. Amen. Donc, après avoir donné des recommandations en conformité avec la sainte doctrine selon les catégories de personnes, Paul expose clairement l'origine de cette sainte doctrine qui est celle de Christ, ou plutôt celle révélée par Christ, à savoir le don ou la grâce de Dieu. Ce passage est clairement un des passages qui résume parfaitement l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie en venant sur la terre et en mourant sur la croix pour le salut des hommes. Quand on parle de la grâce de Dieu, on parle tout simplement de Jésus en fait. Et c'est exactement ce qui est expliqué dans ce passage. Jésus, le Fils de Dieu, qui s'est donné, qui a payé, qui s'est livré pour nous en mourant sur la croix. Et je vais tenter de faire un parallèle entre cette œuvre de Christ qui a été réalisée il y a plus de 2000 ans et les conséquences que cela implique dans la vie des croyants, tout simplement. Donc tout cela peut-être en trois points, on va essayer de le faire en trois points. Donc le premier point, c'est ce sacrifice que Christ a accompli sur la croix est un sacrifice volontaire. Et ce salut qui est offert par ce sacrifice est pour tous. Jésus était obligé de mourir sur la croix pour nous sauver. Nous qui étions pauvres pécheurs. Pécheurs pourquoi ? Parce que nous faisons constamment ce qui est à l'encontre de la volonté de Dieu. Que ce soit en acte, en parole, en pensée et surtout pour les actes également, ou tout ce que nous aurions dû faire et que nous n'avions pas fait. Nous péchons chaque jour, c'est-à-dire nous manquons le but, nous manquons la cible et nous ne vivons pas comme la parole de Dieu nous demande de vivre. Nous ne reconnaissons pas assez l'œuvre de Dieu dans la création. On ne loue pas Dieu dans notre vie de tous les jours comme il devrait l'être et nous ne le glorifions pas comme il doit être glorifié. Tout cela parce qu'à cause des choses de ce monde, on est attardé par ce qui est ici-bas et on ne passe pas du temps à regarder le Seigneur déjà par la création et aussi un moyen pour Dieu de s'exprimer, de nous montrer qu'il est là, de montrer sa divinité. Une puissance et qui devrait également nous amener à réfléchir, à voir notre petitesse. Et ça, nous ne le faisons pas. Et ce que nous faisons, c'est pécher seulement, transgresser. Rappelons que la parole de Dieu, elle nous dit que les conséquences du péché, c'est la mort. La mort ou tout simplement la séparation avec Dieu. Or, par amour pour nous, Jésus s'est donné en mourant à la croix. Et si nous plaçons notre foi, notre confiance en Jésus et en son sacrifice pour nous, nous sommes sauvés. Nous avons le pardon et nous sommes désormais proches de lui parce que le péché crée un fossé entre nous et Dieu. Or, ce fossé a été comblé par Christ et c'est pour ça que Christ, avant son ascension, a dit qu'il allait préparer une place pour ses disciples. C'est-à-dire qu'il savait que son sacrifice allait permettre à tout homme qui place sa foi en lui d'avoir cette place auprès du Père, être proche de lui, être assis avec lui sur le trône. Et c'est exactement ce que la parole de Dieu nous dit. Et si nous plaçons notre foi, si nous avons confiance en cet acte qu'il a fait à la croix et qu'il a effacé l'acte de condamnation qui nous revenait, eh bien nous sommes sauvés, nous sommes réconciliés. Et ce que nous dit la parole, nous avons le pardon de Dieu et nous sommes auprès de lui comme il est avec nous dès à présent par le Saint-Esprit. Et ça, c'est une assurance pour tous les hommes. Sans exception, le salut est pour tous les hommes. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit. De là arrive mon deuxième point. Dieu néanmoins se dit qu'il forme un peuple que personne ne connaît, mais que Dieu seul connaît, et ce peuple est ce peuple qui lui appartient. Et même, c'est très compliqué parce qu'on ne peut même pas toucher ce point parce que c'est généralement un point qui est un peu sensible et dans les discussions entre chrétiens, notamment des fois quand on parle de la prédestination. Y a-t-il des gens qui sont prédestinés à mourir, prédestinés à vivre? Comment comprendre cette notion du peuple de Dieu? Car on parle du fait que Dieu fait grâce et qu'il est une source de salut pour tous les hommes, mais pourtant, il ne se forme qu'un peuple. Il ne se forme pas tous les peuples, c'est un peuple. Donc, il y a un aspect qu'il ne faut pas négliger, que la parole de Dieu s'adresse à nous selon notre condition d'homme. Pour expliquer ce point-là, moi j'aime bien dissocier et je l'utilise vraiment cet aspect-là quand je regarde la Bible pour voir qu'est-ce que Dieu me dit en tant que Dieu lui-même. Il y a ce qu'on appelle les affaires de Dieu et l'affaire de l'homme. Où des gens parlent des fois de la responsabilité de l'homme ou de responsabilité de Dieu. Moi je préfère dire c'est l'affaire de l'homme et l'affaire de Dieu. Qu'est-ce que l'affaire de l'homme ? L'affaire de l'homme c'est croire en Jésus qui est mort sur la croix. Garder cette espérance. Prier pour avoir la foi. Prier pour la persévérance. Mettre en pratique la parole de Dieu qu'il reçoit. Annoncer l'évangile à tout homme sans exception. Se repentir de ses fautes, se remettre en question. Voilà des exemples qui appartiennent à l'affaire de l'homme. Et quelles sont les affaires de Dieu ? L'affaire de Dieu, c'était d'avoir donné ce sacrifice parfait à la croix. Donner le moyen de comprendre le royaume de Dieu. Le don du Saint-Esprit éternel aux croyants. La recherche de son peuple. La préparation d'une place dans le ciel pour son peuple. L'amour et le don exemplaire de l'amour qu'il offre à son peuple, la maîtrise de la création. Vous voyez, il y a plein de choses en fait qui sont des affaires de Dieu que nous, en tant qu'hommes, nous ne pourrons jamais faire et jamais comprendre. Mais nous, il y a les affaires de l'homme. Dieu s'adresse à tout homme et s'adresse à tous les hommes en montrant le sacrifice à la croix. Néanmoins, Dieu sait déjà le peuple qu'il se forme. Mais c'est l'affaire de Dieu. Le sacrifice à la croix également, de la même manière, c'est l'affaire de Dieu. Bien avant que nous puissions avoir la foi naître, il était déjà mort à la croix pour nous. Rappelons que la Bible est là pour nous montrer la vérité, mais elle n'est pas là pour expliquer clairement les opinions de Dieu, la technicité de Dieu. Non, elle annonce qui est Dieu à la mesure de la compréhension humaine. Elle nous fournit les éléments pour amener les hommes au salut. C'est là l'objectif. Ça nous amène au troisième point. Ceux qui croient en Christ sont purifiés et ils se purifient. C'est-à-dire, ils s'examinent, se remettent en question et adoptent une vie en conformité avec la loi de Dieu. J'aimerais juste ici rappeler un terme qui revient souvent. Et ici, dans ce passage-là, on parle du terme d'iniquité. Et ce terme d'iniquité provient d'un mot grec qui veut dire des personnes qui ont une vie sans loi. Une vie sans loi, c'est-à-dire ceux qui sont à Christ sont libérés du péché, mais deviennent, on va dire, serviteurs du Christ. Ils vivent dans la loi. Ceux qui sont à Christ sont libérés du péché, mais deviennent serviteurs du Christ. Ils vivent désormais avec la loi du royaume, à l'exemple de leur maître et sauveur Jésus-Christ. C'est là où il faut vraiment aller plus loin quand on dit « Je suis libéré du péché, je suis libéré de toute chose, je suis libéré, je suis en Christ désormais. » Oui, tu es libéré, mais pas libéré au point d'être dans l'iniquité, d'avoir une vie sans loi. Une vie débridée, une vie où la loi n'est simplement que le désir du péché. Non, nous sommes désormais dans la loi de Dieu, la loi de l'amour, la loi du sacrifice, la loi de l'humilité. Toutes ces personnes deviennent désormais saints, car elles vivent avec les caractères du royaume. Ils ont une vie de prière, la piété est une des caractéristiques fondamentales des personnes rachetées. Et elles vivent également d'une manière juste, ils vivent de la justice de Christ. Voilà comment est présentée la grâce de Dieu, que Paul recommande à Timothée d'exposer avec une autorité afin de corriger et reprendre. Et ça ne veut pas forcément dire être fâché ou crier, mais juste que ce soit dit et que ce soit dit sans hésitation, mais avec une pleine confiance. Comme si nous parlons de la part de Dieu qui est tout-puissant et qui a autorité sur toute chose. Mon exhortation ici et le message que j'aimerais vraiment faire passer, c'est tout simplement vivons de cette grâce de Dieu. En restant dans ce qui concerne nos affaires et non celles de Dieu. Ne cherchons pas les choses de Dieu. Ne cherchons pas à détailler les affaires de Dieu, mais cherchons à garder nos affaires. Rappelons-nous également de deux choses. Concernant cette grâce de Dieu. La grâce de Dieu, Jésus-Christ, influence notre vie éthique, notre vie morale, comportementale. Je ne reviendrai pas sur les détails de cela. On l'a déjà abordé sur plusieurs podcasts, et cette grâce nous apprend un nouveau mode de vie qu'il nous faut transmettre à tout chrétien avec rigueur, amour et autorité. Et deuxièmement, cette grâce n'est pas juste une question d'un comportement terrestre à avoir, elle est aussi la joie du racheté. l'espérance merveilleuse de revoir son Sauveur et d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Et c'est là où il faut accentuer, parce que parfois, on peut oublier que notre vie de chrétien ne se résume pas simplement à se brider sur terre, mais à attendre avec joie le retour de Christ, à attendre avec joie l'espérance qui nous attend derrière. Nous vivons entre la joie et le combat contre le péché, le combat contre notre chair, notre propre chair, que Christ a déjà crucifié, mais nous avons cette joie. Contrebalancer cela. S'il n'y a que la joie, il y a le laxisme. S'il n'y a que la rigueur, on peut tomber dans le légalisme. Cette tension entre les deux fait que nous devons nous rappeler de cela. Apprenons à partager cette grâce en parlant du sacrifice de Christ, des conséquences claires dans notre vie, mais tout cela sans oublier la bienheureuse espérance. Voici mon exhortation, car cette vie sur terre n'est que passagère. Regardons notre Sauveur. Il revient bientôt chercher son peuple. Son peuple, est-ce que tu y appartiens? C'est celui qui l'honore, celui qui le respecte, qui a gardé ses commandements, qui a été fidèle et qui l'aime. Voilà son peuple. Amen.